Filou, c'est Sura, bonjour.
Bonjour, Julien.
Merci infiniment d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Radio Judaïka en cette matinale spéciale, Yom HaZikaron. Vous êtes président du service social juif, mais ce n'est pas exactement à ce titre que nous vous accueillons en cette matinale spéciale. Votre neveu Eitan est tombé au combat en 2014. Alors l'an dernier, il était impossible que la famille se recueille sur la tombe de votre neveu en Israël. Cette année, ce sera vraisemblablement possible. On l'a appris très dernièrement. Vos proches, que feront-ils?
En fait, cette année, il y a toujours des restrictions par rapport à la fréquentation des cimetières. Donc, seuls les très proches pourront aller se recueillir devant les tombeaux des soldats qui sont tombés. Et bien sûr, ma sœur, ma nièce, mon beau-frère iront. Et après, ben, ils recevront les gens moins proches qui seront très nombreux, comme une shiva à la maison. Voilà, c'est comme ça que ça se passera cette année.
Alors, un monument a été érigé à la mémoire de votre neveu, Eitan Barak. Je crois, avant qu'on entre dans le vif du sujet et dans la narration à proprement parler, que pour ce qui est de ce monument, ça n'a pas été sans difficulté, je crois.
Mais non, tout le monde sait que l'administration en Israël est très compliquée, que pour arriver à faire quelque chose, il faut vraiment. C'est un parcours du combattant. Et ma sœur, Eitan Barak, qui est donc décédé comme premier soldat qui est rentré à Gaza en 2014 lors de l'opération Tsouk Eitan, a été un peu un symbole, je crois aussi de par le nom qu'il porte, puisque c'était le même nom que l'opération qui était enclenchée. Et il y a eu une assez grosse mobilisation autour de son décès, de son souvenir. Et particulièrement la municipalité de Herzliya, où ils habitent, et en la personne du maire qui lui s'est mobilisé, Moshe Fadlon, qui s'est mobilisé pour faire les démarches et essayer d'obtenir non seulement l'autorisation d'ériger un monument, une sculpture qui a été dessinée par ma sœur Michèle, et en plus le parc qui abrite cette sculpture a été baptisé Derer Eitan, donc le chemin d'Eitan, et c'est un parc qui fait la jonction entre la marina qui se trouve au sud de Herzliya et la plage. Voilà comment ça s'est déroulé. Et elle a été, ça a été inauguré, je crois, 4 ans après son décès en juillet-août 2018.
J'ai la photo de ce monument sous les yeux. C'est une sorte de ruban doré, courbé, qui fait une boucle.
Qui représente un peu l'infini, quoi.
Voilà, c'est ce que je voulais vous demander très précisément. Qu'est-ce qu'il
Oui.
symbolise? C'est ça, c'est l'infini et puis la continuité des choses, quoi.
Exactement. Voilà, c'était un peu le projet de ma sœur. Elle a mis un petit temps avant de le réaliser, de le poser sur papier. Et puis le reste, ça a été, je vous dis, une incroyable mobilisation au plus haut niveau pour que ça se réalise. En fait, si je ne me trompe pas, c'est très compliqué d'ériger des monuments au nom des soldats qui sont tombés. Je pense que c'est aussi une question de nombre. Et voilà, mais je ne peux pas le jurer.
Filou, on peut entrer maintenant dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec les mots, le rythme qui seront les vôtres. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la guerre de Gaza, lors de laquelle Eitan a trouvé la mort, et c'était, vous l'avez bien dit, le premier dans le cadre de cette opération, elle s'est déroulée de juillet à août 2014, et on le sait, on le savait à l'époque. C'est un conflit qui promettait d'être violent. Quel était votre état d'esprit à vous qui le suiviez de loin, sachant bien cet été-là que vous aviez un proche au front?
C'est évidemment c'est la même chose un peu pour tous les gens qui ont un proche qui est à l'armée ou que ce soit. Mais c'est un sujet en fait auquel on pense. C'est un sujet qui est toujours en filigrane dans les conversations familiales, les conversations avec les amis. Mais c'est en fait un sujet qu'on n'aborde pas. C'est une chose qu'on ne dit pas. Parce qu'évidemment, c'est une angoisse perpétuelle. Je savais. Comme d'ailleurs pratiquement nous tous, le jour où Israël rentrerait dans Gaza. Et je me suis couché la veille, c'était le 17 juillet Je me suis couché avec une énorme angoisse. Et voilà. La crainte qui m'habitait s'est réalisée et ma sœur m'a appelé le matin. Il était 5 heures du matin et elle m'a appelé. J'ai pas vu que c'était elle. J'ai donc, comme je l'ai déjà raconté, j'ai pas décroché un peu pour éloigner le mauvais œil, en se disant ben non, ça se passera pas. Et elle a rappelé, le téléphone a ressonné à 5 heures. J'ai décroché et c'était elle. Elle m'a dit juste Ethan est parti. Voilà, c'était zéro. Et puis voilà, en une fraction de seconde, tout un destin qui disparaît.
Donc lui était en Israël depuis toujours ou il avait vécu le
Oui,
processus
il est
d'aliyah de
né,
son
il
vivant?
est, non,
Il
non,
est né
il est
là-bas.
né en Israël, il était israélien, il n'a jamais habité en Belgique, il a visité seulement la Belgique. Sa maman est belge.
Alors en 2014, enfin j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. On peut parler là aujourd'hui à froid d'une sorte de prémonition quand même que vous avez eue, si je ne me trompe pas.
Oui, mais je pense que ce n'est pas une prémonition, c'est un peu la crainte du fait inexorable. C'est-à-dire, c'est un peu la crainte d'une chose qu'on sait qui va arriver, qu'on sait qui peut arriver, qui est extrêmement réelle, mais qu'on enfouit très profondément en se disant, ben, on n'en parle pas, et quand on y réfléchit, on évacue ça directement par une autre pensée. Et voilà, mais on est quand un jeune part à la guerre, ben on sait très bien qu'il est exposé à ne plus jamais revenir, à ce qu'on puisse plus serrer dans les bras, à ne pas le voir grandir. Voilà.
C'était une disparition hautement symbolique que celle-là, parce que c'était le premier d'une série. Vous vous êtes rendu, vous, à l'enterrement d'Eitan en Israël.
Bien
Des milliers
sûr.
de gens ont défilé. Et je crois me souvenir, lors d'un dialogue qu'on a eu il y a plusieurs mois, que ce qui vous avait marqué, c'était que c'était un défilé pacifique, sans parole de haine,
Très digne.
très digne. C'est ça.
C'est la douleur prévalait avant tout. Et j'explique ça toujours parce que c'est un truc qui m'a vraiment retourné, cette espèce de maturité des Israéliens. C'est-à-dire que c'est pas la haine qui guide, c'est plutôt l'espoir qui guide, c'est plutôt le regret et l'espoir. Et ça m'a fort impressionné, vraiment, ça m'a impressionné. C'est pour ça que je suis. Enfin bon, on parlera peut-être de la situation actuelle plus tard, mais c'est pour ça que c'est une chose qui, je pense, est une force du peuple israélien, c'est cette capacité de résilience et cette capacité de voir plus loin.
Filou Sessuara, moi, c'est un peu la question que je voulais vous poser. Effectivement, cet apaisement, pensez-vous que la situation est apaisée aujourd'hui et que cette force est reconductible aujourd'hui dans une situation qui est somme toute différente, même si on ne connaît plus, pour l'instant en tout cas, de conflits aussi terribles? Est-ce que cette dignité, cette capacité de se centrer sur l'essentiel vous semble toujours préservée aujourd'hui?
Écoutez, je pense que les choses ne sont pas aussi calmes que ça. Je lisais encore ce matin que dans l'année écoulée, il y a 43 soldats qui sont décédés. Donc, il n'y a pas eu de conflit. Le conflit de Gaza a fait 68 morts, 68 Hayalim qui ont été décimés. Et malgré tout, on est en état de paix, entre guillemets, mais il y a 43 soldats qui ont disparu cette année, qu'on pleure à Yom HaZikaron. Aujourd'hui. Donc, non, la situation, elle n'est pas apaisée. Oui, elle est apaisée. Enfin, il y a plein de choses. On est en situation de Covid, tout passe au second plan. Mais je pense que moi, personnellement, je ne suis pas très optimiste par rapport au présent. Je me dis qu'il y a des choses qui se passent qui sont formidables, c'est-à-dire des rapprochements entre les pays du Golfe et les pays du Maghreb et Israël. Ça ouvre plein de possibilités. Je pense que il y a une partie, enfin, il y a des personnes qui sont malheureusement oubliées dans ce processus de rapprochement, de réconciliation. Et je crains qu'un jour, ils se rappellent un de notre bon souvenir d'une manière qui soit un peu violente ou désagréable. Et voilà, à part ça, c'est merveilleux qu'on ait toutes ces opportunités qui se créent. Et voilà, est-ce que ça va... Je ne suis pas israélien, donc c'est toujours très compliqué de s'exprimer parce que moi, je ne vote pas en Israël, je ne prends aucun risque. J'ai certes perdu mon neveu, mais moi, mes enfants sont bien à l'abri. J'ai aucun droit de juger ce qui se passe, des choix des Israéliens. Moi, je peux juste constater ce que j'en vois, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vois qui est déformé ici dans nos pays par la presse, ce que j'entends qui est dit d'amis et de familles israéliennes. Donc voilà, je peux juste constater et j'ai un petit peu peur parce que je pense que se mettre la tête sous la terre en se disant il y a une solution qui va se profiler. C'est parfois dangereux, c'est plutôt confortable, mais c'est parfois dangereux. Mais encore une fois, je n'ai pas de jugement par rapport à personne et aucune opinion politique, quelle qu'elle soit.
N'étant pas israélien, comme vous venez de le rappeler, un jour comme aujourd'hui est quand même un jour qui vous concerne de par votre histoire personnelle et familiale.
Bien
Demain
sûr.
jeudi, ce sera un jour de joie en Israël. Comment vous vivez-vous chaque année ce passage d'un état à l'autre, du recueillement à la joie, des pleurs à la fête? En somme, le balayage des cérémonies d'aujourd'hui et de l'intensité d'aujourd'hui qui est fait quasi en un instant et qui fait un peu l'identité et l'âme israélienne de loin, vous, comment vous le voyez, n'étant pas Filou Sessura, je le rappelle, israélien comme vous venez de nous le dire.
Oui, en fait, écoutez, moi je pense que je m'imagine que la date du Yom HaZikaron n'a pas été choisie par hasard. HaZikaron, c'est le souvenir, et rappelons aussi que c'est le souvenir non seulement des soldats tombés, mais aussi des victimes juives du terrorisme dans le monde, hein. Donc, c'est plus large et ça nous concerne tous, évidemment, à ce niveau-là. Et Yom HaTzmaout, c'est donc la célébration de l'indépendance de l'État d'Israël. Et pourquoi ça n'a pas été choisi par hasard? Parce que c'est vraiment propre à notre histoire, à notre tradition juive. C'est-à-dire qu'on la tradition juive a toujours privilégié la joie à la tristesse et la vie à la mort. Donc demain, ce sera le Yom HaTzmaout, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Et c'est là que le mot tikva, le mot espoir, prend tout son sens. Aujourd'hui, nous sommes dans le recueillement, nous le vivons intensément et nous savons déjà que demain sera un jour de réjouissance. Voilà, c'est l'espoir dans toute sa splendeur. Et c'est un peu, vous me demandiez si j'étais, comment je me sentais par rapport à l'avenir, par rapport au présent, etc. Ben, j'ai toujours ce mot espoir qui me guide. C'est comme dans ma vie, j'ai des moments de down et je sais que très bien que le lendemain, ben, j'aurai un moment qui effacera ce moment de tristesse, de désespoir et qui fera que ce sera complètement oublié. Voilà, il faut vivre pour demain, pour l'avenir, et il faut vivre avec l'espoir de jours meilleurs et l'espoir de pouvoir soi-même être acteur de ces jours meilleurs.
Alors, il y a une chanson qui dit très exactement ça, pour ce que j'ai pu en comprendre, c'est Yelad Eitan, qui justement a été écrite et interprétée par la chanteuse Rita en hommage à votre neveu Eitan. On va écouter un peu cette chanson, un extrait, le début, et puis j'aimerais que vous me disiez, même sommairement, ce que ça vous évoque, même si déjà ça fait référence à ce qu'on vient de se dire. À savoir que l'espoir, il faut toujours l'avoir en soi. Yelad Eitan.
כשתצא מהדלת, כשתחלוף על פניי, אל תשכח להשאיר קצת ממך על בגדיי, אנשק את ראשך החושש, מי יודע אם עוד ניפגש. בוא הבית היקר שלי כבר מאוחר ילד שלי וחייל של כולם הלוואי והיית נשאר רק שלי ולא עוד גיבור בעולם בוא הביתה ילד איתן על ספה נזרק רגליים על השולחן נסיר תחבושות ונשמור על הזמן קרוב קרוב וכמה טוב שתבוא הביתה, אוכל מוכן, אל תכעס בשבילי, אתה עוד ילד קטן, ילד עולם. שתצא מהדלת תבקר הדממה, הוחלפו קוביות במדי מלחמה, עומד על הסף מבטים מחונים, מי חשב שכך יעברו השנים, ובמקום לבנות ארמונות בחולות, אתה שוכב לך בין חללים לתקוות, לו רק יכולתי אותך לחסות,
l'espoir qui habite cette mélodie magnifique, au fond, c'est un très beau résumé qui donne la chair de poule de ce qu'on vient de se dire. Aller de l'avant, coûte que coûte, en mémoire quand même du passé qui nous constitue. Voilà, c'est comme ça qu'on peut écouter cette magnifique chanson aussi, Philou Cessura.
Oui, et surtout dans cette chanson, les paroles disent que Ethan, Yeled Ethan, l'enfant Ethan, eh bien, c'est notre enfant à tous. Et ça rejoint aussi ce que vous me demandiez par rapport au fait que j'étais personnellement touché. Non, je pense qu'on est tous touchés. Et Yom HaZikaron et la perte aussi d'un enfant d'Israël, parce qu'il s'agit de ça, d'un enfant d'Israël à la guerre, eh bien, c'est une chose qui nous touche tous, parce qu'ils sont tous nos enfants, parce que ça pourrait être notre enfant qui se trouve là.
Alors, il y a un combattant de cette même opération de 2014 qui a eu un geste désespéré avant-hier, Itzik Sadian. Il s'est immolé à la veille de Yom HaZikaron, c'est pas rien, il souffrait de syndrome de stress post-traumatique. La guerre, ça laisse des traces dans les familles qui ont perdu quelqu'un, et ça laisse des traces dans le cœur et dans l'âme des combattants. Assez généralement, comment interprétez-vous son geste? Quelle valeur peut-on lui donner aujourd'hui, selon vous?
Écoutez, je vais vous dire franchement, vous m'apprenez cette nouvelle, elle me glace d'effroi, parce que ça veut dire que quelque part, le soutien le réel soutien que et la population et les autorités donnent à ces soldats qui reviennent de la guerre, ben, quelque part, il y a eu un échec. Je veux dire que chacun, à mon avis, chaque parent, comme dans le décès de n'importe quel enfant, qui est une chose qui est tellement injuste et tellement pas dans l'ordre des choses, chacun réagit comme il peut. Ben, voilà, ma sœur et mon beau-frère, eux, se sont lancés et sont militants dans les associations de parents qui ont perdu leurs enfants à la guerre. Mon beau-frère, hier soir, au Kotel, lors de la commémoration officielle de Yom HaZikaron, a lu, au nom de tous ses parents, le Kaddish au mur des lamentations. Voilà, mais écoutez, il y a des gens qui sont effondrés, il y a des gens qui vivent leur vie normale, il y a des gens qui se recentrent sur les autres enfants et sur leur famille, sur leurs amis, d'autres qui militent. Chacun appréhende la chose comme il le peut et comme il... Comme le destin lui impose. Voilà, je ne sais pas comment dire ça. Je suis vraiment, vous m'avez vraiment perturbé en me racontant cette histoire. C'est terrible.
Oui, c'est malheureusement la violence de l'actualité et des infos qu'on traite au jour le jour et qui, certaines fois, nous envoie ces tristes rappels du destin. Nous, on parle de ça comme quelque chose de passé. Je parle des opérations de 2014, mais c'est encore très présent dans l'esprit des gens qui l'ont vécu. Et Didier Cohn, ici présent, disait qu'il a des amis qui, eux, ont été sur le front du Liban et qu'il a vu revenir avec les cheveux blanchis en quelques mois. C'est traumatisant, une guerre. Ça,
bien sûr. Forcément. Bien sûr. Mais je peux vous dire une chose, c'est que... Ethan, il est réellement présent en permanence dans ma tête. Déjà, il y a des événements. Il y a trois événements qui sont le Yom HaZikaron, sa date d'anniversaire, et puis aussi la date où il est parti. Donc, c'est trois événements qui me le rappellent de manière évidente. Et puis aussi, le quotidien. Ethan, il a l'âge de mes deux fils. Donc, chaque fois qu'il y a un événement, ben, je l'imagine aussi dans la même situation. Et j'imagine surtout ce que ma sœur doit penser en se disant, voilà, si Ethan est là, était là, eh bien, il ferait la même chose qu'eux, ou voilà, il y a les événements de la vie quotidienne qui rappellent tout le temps le souvenir d'Ethan. Voilà, il était très mignon, il était très vivant.
Merci infiniment, Philou Cessiora, d'avoir été avec nous pendant cette vingtaine de minutes. C'était vraiment un honneur de vous entendre rappeler le souvenir d'Ethan. À bientôt!
C'est le moins que je puisse faire. Merci.